Bonjour, bienvenue sur Neptune FM. Je m'appelle Laurence Dorlac, j'ai le plaisir de vous accompagner pour cette cinquième édition du rendez-vous avec les auteurs de l'île-Dieu, une île des auteurs initiée par Marie de Henzel. Toute cette semaine, nous allons passer pas loin d'un quart d'heure avec quelques auteurs sur Neptune FM. Bonjour Carole Barjon.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous rejoindre dans ce studio de Neptune FM. Je le rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, qui ne vous liraient pas dans le Nouvel Observateur, est-ce possible, l'Obs ? Vous êtes rédactrice en chef adjointe au service de politique intérieure de l'Obs, Carole oui. Barjon. La politique, c'est votre affaire. Et voilà qu'il y a quelque temps, avant les dernières présidentielles, vous commettez cet ouvrage. J'aime beaucoup, moi, c'est le nom de la collection, Mauvais Esprit,
oui.
chez Robert Laffont. Déjà, ça qualifie bien les choses. Son titre, mais qui sont les assassins de l'école ? Alors, je vous le précise tout de suite, les assassins de l'école n'habitent pas au 21. Ils habitent rue de Grenelle. Dans le 7e arrondissement à Paris. Le propos, au départ, c'est celui d'une mère de famille qui découvre avec effarement que son gamin, les copains de son gamin ne savent pas trop écrire, et puis surtout que le professeur est capable de leur dire « si je fais des fautes, n'hésitez pas à me reprendre ». Il est là le début de l'histoire pour vous.
Oui, pour moi le début de l'histoire il est là, c'est-à-dire il y a une douzaine d'années. Moi je suis journaliste politique, et donc j'avais pas vraiment le temps de m'occuper de la rubrique éducation, même si ça m'intéressait. Et en fait, c'est venu parce qu'effectivement, un jour, mon fils est rentré avec un texte à recopier qui était écrit, où il y avait des fautes de français. Et donc...
Je peins P-U-I-N-T-S, c'est sûr.
Oui, voilà, peins P-E-I-N-T-S, le bâton B-A-T-O-N sans l'accent circonflexe. Et donc, je suis allée discuter un petit peu avec l'institutrice et voilà, ça s'est pas très très bien passé. C'était d'ailleurs, je dirais que celle-là était mal embouchée, parce que franchement, sinon je trouve qu'on peut discuter avec les professeurs en général. Ouais. Voilà, là on était mal tombés. Mais elle sortait de l'IUFM, c'était une jeune institutrice.
L'école des maîtres.
Et l'IUFM, Institut Universitaire de Formation des Maîtres, qui ont disparu depuis, qui ont été remplacés, enfin, dont le nom a été changé, parce qu'en réalité, la formation, elle, n'a pas changé, et c'est bien le problème. On en parlera peut-être tout à l'heure. Donc, elle sortait d'un de ces IUFM, et du coup, je me suis posé des questions sur la formation des maîtres, parce que je me suis dit qu'il y avait un problème. Et puis, effectivement, j'ai eu quelques autres expériences
Il y a cette phrase qui court toujours. De toute façon, l'orthographe, maintenant, avec les ordinateurs, on s'en fout, parce que les ordinateurs vont corriger. L'orthographe, ça s'apprend jusqu'en terminale, parce que pourquoi apprendre au sortir de la primaire ?
Alors, c'est ce que j'ai entendu, effectivement, un professeur de français expliquer à un parent d'élève lors d'une réunion à laquelle j'assistais moi-même en tant que parent d'élève, et qui demandait s'il allait y avoir en sixième, donc c'était, et qui a demandé s'il allait y avoir encore des dictées. Effectivement, cette professeure de français a commencé à se lancer dans un long dégagement pour expliquer qu'il y avait beaucoup d'autres moyens d'apprendre l'orthographe, et que de toute façon on apprenait l'orthographe et le français jusqu'à la fin du secondaire. Enfin, tout ça était absolument stupéfiant, puisque il fut quand même une époque pas si lointaine, et ça donnait de bons résultats, où on apprenait quand même à lire au cours préparatoire. Et il y a, 30 ou 40 ans, on estimait que les élèves devaient savoir lire et écrire en sortant du CP. Aujourd'hui, l'apprentissage s'étale sur 3, 4 ans. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a changé les cycles. Bon, voilà, moi j'ai découvert ça comme ça, par expérience personnelle. Et j'ai décidé de m'y remettre il y a 2 ans, parce que j'ai découvert que ça continuait. Évidemment, si je m'étais aperçu que mon expérience datait de 12 ans avant, j'aurais laissé tomber. Mais non, c'était pareil, et je dirais que ça avait plutôt empiré. Et donc, je me suis dit que il fallait quand même tirer la sonnette d'alarme.
Voilà, là, il y a la journaliste qui ressort, l'enquêtrice qui ressort, et puis quelqu'un qui a tout de même une expérience des politiques, un carnet d'adresses politiques, et qui a la possibilité, et vous vous êtes donné la possibilité d'aller les voir, ces ministres de l'Éducation nationale, qui sont passés les uns derrière les autres, et qui, et les Jospin, les Béraud, etc. Alors, le livre est à lire, bien évidemment, mais qui sont les assassins de l'école ? On suit, entre guillemets, vos rencontres, vos pérégrinations, mais finalement, on s'intéresse. Parce que mères de famille, pères de famille qui nous écoutent là, on a tous entendu ça. On s'est tous dit, oh, bah, de toute façon, c'est vrai, un peu, s'il fait de l'informatique, peut-être que l'orthographe, c'est moins grave, etc. On se rend compte que maintenant, on arrive à près d'un enfant sur cinq qui ne sait presque pas lire, presque pas écrire en entrant en sixième. Donc là, ça commence à devenir assez grave parce que derrière tout ça, il y a le raisonnement. Connaître la grammaire, c'est savoir raisonner d'une certaine manière.
Bah,
qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que, franchement, on arrive à savoir, finalement, c'est la faute à qui, au mauvais français?
C'est la faute à pas mal de gens et de raisons conjuguées. C'est pour ça que c'est très difficile. Il est très difficile de résumer ce qui est, de mon point de vue, une tragédie. Hein, parce que 20% d'enfants qui ne maîtrisent pas le français à l'entrée en sixième, aujourd'hui en France, ouais, grande démocratie moderne, c'est absolument terrible. Impossible. C'est un chiffre terrible. Et bien entendu, ça a des conséquences énormes sur leur parcours professionnel ensuite, leur parcours ensuite d'individu, de citoyen. Voilà. Parce que quand on ne maîtrise pas sa propre langue, eh bien, on a beaucoup de mal à s'insérer dans la société. Ça paraît, c'est une évidence. Bon. C'est très difficile de résumer d'une formule facile, etc. Voilà, il y a pas un responsable, il y en a plusieurs. Il y a des raisons conjuguées, il y a notamment l'influence de ce qu'on a appelé les nouvelles pédagogies dans les années 70, après 68.
Donc après, il est interdit d'interdire, on voilà, se lance dans la permissivité à tout crin, en quelque sorte.
Et surtout, on pense que l'éveil de l'enfant est plus important que, au fond, lui inculquer un savoir.
L'instituteur, bon, à la
le savoir est perçu à l'époque comme quelque chose, voilà, assimilé au cours magistral et à donc le discours du dominant finalement sur le dominé un petit peu. Bon, et ça, ça a été comment dire un état d'esprit qui a prévalu pendant extrêmement longtemps. On aurait pu dire par exemple que bien entendu, il faut penser à l'éveil de l'enfant. Parce que quand vous critiquez ce qui s'est passé depuis 30 ans à l'école, on vous accuse évidemment d'être contre la pédagogie. Non, c'est pas du tout le sujet. Tout le monde est pour la pédagogie, tout le monde a envie d'avoir des bons professeurs, et on sait parfaitement que les professeurs, il y a certains professeurs qui ne savent pas faire passer leur savoir et qu'ils doivent apprendre à enseigner. Donc on est tous bien d'accord que la pédagogie est très utile. Une fois qu'on a dit ça, on peut peut-être aussi dire qu'il y a eu des excès et de la pédagogie, on est passé au pédagogisme et avec effectivement la diminution constante des heures de cours au profit de matières qui sont effectivement très utiles dans la vie, mais dont on peut penser que peut-être elles peuvent intervenir en tout cas après l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, qui sont et évidemment du calcul, qui sont les fondamentaux.
Donc peu à peu,
parce qu'on a négligé les fondamentaux.
On a oublié les gammes.
Donc, exactement.
Comme on répète les
exactement
pas en danse classique, il faut voilà répéter les gammes. Comme on répète les do, ré, mi, fa, sol, la, si, do quand on
absolument
fait du piano pendant
absolument
des heures entières.
Tout
là,
fait
on a oublié de faire ces gammes. Finalement.
C'est une excellente comparaison et je l'utilise moi-même assez fréquemment parce que personne ne vous dira qu'on peut apprendre le piano comme ça. Tout le monde sait qu'il faut faire des gammes et que c'est emmerdant. Voilà, fastidieux. Eh bien, l'apprentissage de la lecture, c'est la même chose. Il y a des, comment dire, des contraintes techniques de répétition, de systématisme, de temps passé. Voilà. Et aux yeux des pédagogues, ces méthodes-là, et notamment la méthode syllabique, c'était une insulte faite à l'intelligence de l'élève, au fond. Vous voyez, ça voulait dire qu'on les prenait pour des perroquets. Non, pas du tout. Il y a des choses par lesquelles il faut passer. Donc, il y a eu ça. Et puis, vous avez eu ensuite des ministres, des professeurs, des gens qui étaient spécialistes en sciences de l'éducation. Vous avez eu l'influence, comment dire, du budget, enfin, du souci du budget de l'État. Parce qu'on a supprimé les heures de français. Il faut quand même savoir qu'à l'école primaire, entre 1969 et aujourd'hui, on a supprimé 230 heures. C'est absolu de français. C'est absolument énorme.
Carole Bargeon, vous sortez cet ouvrage, mais qui sont les assassins de l'école sous la période Sarkozy?
Non,
Hollande. Non, Hollande.
Je l'ai sorti l'automne dernier. Il est sorti fin septembre dernier.
D'accord.
Donc, on était encore sous la présidence Hollande.
Voilà. Mais vous rencontrez énormément de gens qui vous parlent de la présidence Sarkozy.
Oui.
D'où mon lapsus. Parce que je vais en arriver trop vite à une question. Est-ce que c'est un problème de gauche, de droite?
Non, c'est pas un problème de gauche. Enfin, si, c'est un problème de gauche à l'origine, parce que les...
Dit la journaliste de gauche.
Oui, bien sûr, mais je le dis dans ce livre, et d'ailleurs, ça ne m'a... je ne me suis pas,
pas
fait
valu que des amitiés, amis,
voilà.
Bien sûr.
Mais bien sûr, c'est l'idéologie qui prévaut à l'origine, c'est plutôt une idéologie de gauche, évidemment, au nom des meilleures intentions. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça a été fait à l'origine au nom des meilleures intentions pour lutter contre les inégalités scolaires. Et le paradoxe, c'est qu'on est on a abouti à creuser les inégalités. Donc c'est un échec, mais sur toute la ligne. Et si les idéologues de départ étaient plutôt à gauche, vous avez des ministres de droite qui ont couvert ces méthodes. Quelqu'un dont j'ai découvert moi-même, hein, puisque je le connaissais avant comme homme politique, mais je m'étais jamais penché, disons, dans le détail sur ce qu'il avait fait, mais c'est François Bayrou, qui a contribué à faire à ce qu'on n'ait plus aujourd'hui de cours spécifiques de grammaire. Aujourd'hui, vous étudiez la grammaire à l'occasion de l'étude d'un texte, c'est-à-dire quand l'occasion se présente. Mais il n'y a plus de cours spécifiques de grammaire.
C'est un problème de clairvoyance, un problème de courage, et c'est un problème de budget.
Je pense que c'est un problème de soumission au mode, donc d'absence de courage, dans un certain sens. Ensuite, vous avez des questions budgétaires, parce que la suppression de plusieurs heures de français, ça fait faire des économies au budget de l'État, et de facilité. Parce que, au fond, on reconduit les mêmes choses pour ne pas avoir d'ennui avec cette administration et avec ce ministère énorme que tous les ministres ont énormément de mal à gérer. Et c'est pas un hasard si ça s'appelle le mammouth. Voilà.
Alors, si on veut essayer de voir comment pourraient se profiler des solutions, parce que c'est un livre qui pousse à réfléchir, c'est un livre qui nous pousse, nous parents, à nous poser des questions sur notre manière peut-être de suivre un peu plus l'éducation de nos enfants. Mmh. Et ça, pour cela, je vous en remercie. Il y a du bon dans ce mauvais esprit chez Robert Laffont, Carole Barjon. J'avais une question. Est-ce qu'il faut être professeur pour être ministre de l'Éducation nationale ?
Non, je pense pas que ce soit utile.
Faut avoir été.
C'est vrai qu'on pourrait dire que c'est comme le ministère de la Santé. En général, on dit que un homme politique ne doit surtout pas être un spécialiste, hein, surtout pas, parce que il connaît trop bien le dossier, il va s'enferrer dans la technique. Il faut avoir au contraire une vision avec du recul. Et souvent, quand vous connaissez pas la matière, si vous vous faites bien conseiller, vous êtes capable de prendre des décisions. C'est vrai que l'éducation nationale avec la santé, peut-être. C'est peut-être un des deux ministères où c'est pas
faire
c'est,
office de
oui
de cas
c'est probablement pas négligeable de connaître la maison parce que c'est ça.
Alors les solutions qui se profilent, la gouvernance a changé au cas où d'aucuns seraient pas au courant.
Il y a un nouveau ministre de l'Éducation nationale.
Jean-Michel Blanquer, vous l'aviez rencontré pour
bien
cet
sûr.
Ouvrage. Votre avis, vos espoirs. Y en a-t-il un ?
Moi je pense que Jean-Michel Blanquer sa nomination était probablement la nouvelle la plus étonnante et la meilleure dans ce gouvernement. Il a été directeur de l'enseignement scolaire, donc il connaît bien la maison. Je pense qu'il a bien vu toutes les limites de la gouvernance de cette maison.
L'inertie, les lourdeurs,
tout ça.
Saura-t-il faire secouer le cocotier ou bouger le mammouth ?
Et toute la question, c'est de savoir... Je pense que les esprits sont mûrs. Aujourd'hui. Mais.
Des deux côtés, vous voulez dire, c'est à la fois du côté des trois côtés, des politiques, des professeurs et aussi des parents pour accepter que ça bouge peut-être aussi un peu plus. Parce qu'il y a cette énorme inertie en face. On s'en fout, en fait.
Alors,
et puis l'école va tout faire.
Oui, alors vous avez deux types de parents quand même. Hein. Il y a quand même deux types de parents. Vous avez les parents qui sont très attentifs et qui sont ulcérés et qui attendent. Probablement ce que pourrait faire Jean-Michel Blanquer. Et puis vous avez des parents effectivement qui démissionnent, qui pensent que l'éducation ne leur incombe pas. Ça c'est une faute, c'est une faute grave.
Bon. Attention.
Ou alors vous avez les parents qui veulent qu'on protège toujours leurs petits, etc., qui n'admettent aucune critique. Ça c'est une erreur également. Bon.
Donc un espoir. en la personne de ce Jean-Michel Blanquer.
Peut-être,
bon,
si.
Peut-être.
S'il ne se fait pas manger par le mammouth.
D'accord, voilà. Donc attention, sinon carton rouge, rouge comme la couverture de « Mais qui sont les assassins de l'école ?» Collection Mauvais Esprit chez Robert Laffont. Et puis peut-être, ici à Lille-Dieu, quand on aime y être et prendre le temps, un peu plus de dictée en famille, hein ? C'est le conseil de Carole Barjon ou pas ?
Moi, je crois que c'est jamais mauvais, mais on peut peut-être faire ça de façon ludique quand on est en vacances.
Allez, tous, les crayons, les carnets, dans les meilleures librairies qui soient, bien sûr, à Port-Joinville, pourquoi pas.
À Port-Joinville.
Merci, Carole Barjon.
Merci à vous.